Nous ouvrons, si vous voulez, la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Je l'ouvre verset 12. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Verset 17, cinq versets plus loin. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Entre le verset 12 et le verset 17, il y a un développement. Et nous verrons deux, trois choses ce matin tellement importantes. Et j'ai intitulé, bien entendu, cette prédication « Aimez-vous les uns les autres ». Ce message qui est sur le cœur de Dieu sera le message de l'Église jusqu'à la fin. Ce message qui est sur le cœur de Dieu sera le message de l'Évangile jusqu'à la fin. Vous vous souvenez de l'apôtre Jean lorsqu'il était beaucoup plus âgé, qu'il écrit ses dernières lettres. Il ne fait que parler d'amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est sur le point d'être livré pour nos péchés. Et le message qu'il habite et qu'il désire transmettre avec insistance à ses disciples, c'est d'être animé de cet amour qu'il va ensuite témoigner alors qu'il passera par l'épreuve épouvantable de la croix. Et vous savez que Jésus a été un exemple d'amour pour chacun d'entre nous. Et si tu ne comprends pas ce que c'est que l'amour, on ne parle pas de l'amour éros, on est d'accord. On parle de cet amour qui se donne, de l'amour agapé. Si tu ne sais pas ce que c'est que ou ce que signifie l'amour, eh bien ne prends pas seulement le petit Robert ou le petit Larousse, mais prends la parole de Dieu et regarde, observe ce que Jésus a fait pour toi. Et combien notre monde a besoin du véritable amour ? Pas un amour qu'on peut avoir avec nos clics et nos claques, mais un amour qui vient du cœur de Dieu. L'amour que l'Église doit vivre. L'amour que l'Église doit s'imprégner par la puissance de l'Esprit, parce que nous sommes incapables d'aimer. Nous devons être revêtus de la grâce du Seigneur. Nous devons être bénéficiaires de cette rencontre personnelle avec Jésus. Nous devons être habités de l'Esprit de l'Éternel pour être véritablement aimants comme l'Éternel nous a aimés. Nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel qui vienne nous visiter pour être véritablement empreints de l'amour de Dieu. Amen. Et l'Église doit obligatoirement être cet exemple suprême, elle, qui est le corps de Christ, dont lui est la tête bienveillante, la source. Alors voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est difficile, cet amour sacrificiel. Et en regardant un petit peu dans ce texte, au niveau de ce commandement, en regardant la constitution de ce mot « commandement » en grec, il y a comme un engagement de ta vie à être dans ce commandement. Il y a cette particule en grec « en » qui veut dire « dedans », dans ce qui est réalisable, dans ce qui est par grâce réalisable dans ta vie. Et il faut comprendre que nous soyons animés de la puissance de l'Esprit, de la puissance de l'amour de Dieu pour être aussi capables d'aimer parce que charnellement, c'est impossible. Nous avons besoin d'être visités de la vie de l'Esprit justement pour vivre ce commandement bien-aimé. Et pour cela, il nous faut être collés à Jésus. Il nous faut être un, cette même plante avec Jésus. Et Jésus, alors qu'il était ici-bas sur la terre à marcher avec ses disciples, on voit que Jésus voulait cette proximité avec les siens. Amen. Et c'est pourquoi à la fin de sa vie, il leur dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé sur l'exemple que je vais encore vous donner. Des fois, on a l'impression, voilà, c'est un ordre du Seigneur, oui chef, je veux t'obéir, ton commandement. Mais c'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas seulement le fait d'obéir à un ordre. C'est vrai que c'est un ordre suprême, mais c'est quelque chose qui demande un engagement de ma vie, un don de moi-même dans cette description de ce que signifie commandement, ce but ultime pour lequel le Seigneur finalement m'a créé. Cet engagement de toute ma vie pour le Seigneur. Et entre le verset 12 et le verset 17, il y a, entre guillemets, ce qu'il y a entre, c'est comme pris en sandwich, on veut regarder ce qui se passe là au milieu. Parce qu'il y a des clés absolument extraordinaires. Ensuite, au verset 13, il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. D'être dans ce but ultime, à l'intérieur de ce plan même. C'est ça ce commandement. C'est ce que ça veut dire. Un commandement en général, quand on obéit, bon ben voilà, je vais le faire, d'accord, c'est bien, et puis ensuite je vais décharger. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un engagement. C'est pas, oui chef, je t'obéis, je fais, c'est bon. Non, non, il y a beaucoup plus que cela. Il y a un engagement suprême qui parle d'un don de sa vie, qui parle de quelque chose de sacrificiel, et n'est-ce pas cet amour agapé? L'amour agapé, c'est un amour qui se donne. Tu ne peux pas prétendre aimer sans te donner. On ne peut pas prétendre que Jésus nous a aimés si lui-même ne s'était pas donné. C'est exactement le programme qui m'est réservé dans cette dimension de grâce, de pouvoir vivre ce que le Seigneur veut que je vive. Et Jésus, verset 14, il renforce cela. Il dit, vous êtes mes amis, pas vous serez mes amis ou vous avez été mes amis. Nous sommes dans un présent renforcé. L'actualité du Seigneur, elle est là. Vous êtes mes amis. Amis fait d'amour. Je ne peux pas prétendre être un ami de quelqu'un si je ne l'aime pas, du fait qu'ami vient de ce mot amour. Vous êtes mes amis, vous êtes ceux qui sont proches de moi. J'aurais tellement voulu être là. Si vous faites ce que je vous commande, et des fois ce verset nous répulse un petit peu parce qu'on se dit, mais c'est dur, c'est lourd, mais c'est quelque chose qui va t'engager dans un but ultime avec le Seigneur. Il faut que tu sois saisi de l'amour de Dieu, il faut que tu aies rendez-vous à la croix avec le Seigneur, parce que les disciples ne l'avaient pas encore compris à ce moment-là, ils l'ont mieux compris après, et d'autant plus lorsque le Saint-Esprit a été bien entendu déversé dans leur cœur, dans la puissance de l'Esprit pour être véritablement ses témoins à la naissance de l'Église dans Actes 2. C'est alors qu'ils ont compris, oh, et combien devaient languir, après ce roi glorieux qui a marché avec eux, qui a été abandonné à la croix. Imaginez-vous le sentiment des disciples, le sentiment de Pierre, alors qu'il avait compris à la Pentecôte, qu'il a été le porte-parole du message de l'Évangile pour que l'Église, enfin, naisse, par la puissance de l'Esprit, parce qu'elle avait compris que d'être traître, une fois, ça suffisait. Parce qu'il avait compris ce commandement d'amour de Jésus, ce bon berger, qui s'était complètement livré pour ses brebis. Et je le dis avec tremblement ce matin, je le dis avec grand respect devant le Seigneur. Seigneur, ai-je vraiment compris ton message? Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Je vous ai appelé ami, je vous ai appelé ami. Une fois que le Seigneur t'appelle ami ou amie, c'est fait. Une fois pour toutes. Quand Jésus déclare quelque chose sur ta vie, c'est déclaré. Une fois pour toutes. Il y a cette alliance indissoluble qui est faite avec toi, dans cette amitié avec le Seigneur. Et quand il leur dit « je vous ai appelé ami », parce que c'est déjà fait, parce que vous êtes déjà avec moi, parce que je vous porte sur mon cœur et dans mon cœur. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. On est dans la transparence, nous n'avons pas d'agenda caché. Nous sommes dans le un à un, dans ce regard d'amour, dans cette proximité, dans ce même cœur. Lorsqu'on parle d'amour, il y a un choix, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est un établissement du Seigneur afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais pour cela, il revient sur ce verset 12 au verset 17. Ce que je vous commande, le but ultime dans lequel vous devez être, c'est ce que ça veut dire, ce commandement. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que le terme veut dire. Tout cela va s'accomplir dans la mesure où vous vous aimez les uns les autres. Alors, nous connaissons ce programme, je trouve tellement extraordinaire comme le texte de la parole de Dieu est mis en place parce que entre le verset 12 et le verset 17, il y a cette concentration du programme de l'amour du Père, de l'amour de Jésus, du cœur de Jésus, de cette grâce de celui qui a donné sa vie pour ses amis. J'ai regardé dans l'évangile selon Jean, bien sûr, la première fois où le terme d'amour est manifesté. Gardez peut-être un doigt sur ce chapitre 15, on risque de revenir tout à l'heure. Et lorsque l'apôtre Jean parle de cet amour agapé, nous le trouvons au chapitre 3, verset 16, vous le connaissez, Jean 3, 16. Et c'est la première fois dans l'évangile selon Jean que ce terme d'amour agapé apparaît. Et regardez ce programme extraordinaire qu'on récite, qu'on connaît, extraordinaire. Mais il est là, cette première mention dans l'évangile selon Jean de ce terme d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Et parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but ultime pour toi, c'est que le Seigneur ne veut pas que tu te perdes, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Et regarde verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais avant tout, on le sait qu'il va revenir comme grand juge, bien sûr, mais avant tout parce qu'il veut pour que le monde soit sauvé par lui. Donc cette rencontre avec le Seigneur, même si dans ta vie il n'y a plus rien qui fonctionne, ce matin, le Seigneur s'est donné pour toi à la croix afin que tu sois pleinement sauvé. Et ce programme est valable pour toi. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses, mais il a donné sa vie à la croix pour que tu sois pleinement sauvé. Il n'y a pas d'autre salut sinon par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut donné. Il n'y a pas aucun autre nom sur la terre qui n'a été donné sinon le nom de Jésus par lequel nous pouvons, nous sommes pleinement sauvés. Et ce qui me touche, c'est que ce premier terme de cet amour extraordinaire est donné dans ce Jean 3,16 et il est repris dans ce passage de Jean 15. Ce passage est un verset clé aussi parce que, regardez ce qui suit. Le Seigneur connaît nos luttes, il sait que nous sommes livrés dans ce monde. Nous avons besoin de cet amour fraternel pour tenir le coup dans ce monde qui ne va pas du tout, il ne va plus, il va de moins en moins bien, on est d'accord, ou de pire en pire, comme vous voulez. Et c'est pourquoi qu'après, regardez comme la parole de Dieu est magnifiquement construite, il y a immédiatement cette haine du monde pour Jésus et ses disciples, quand on parle de haine du monde, des principes du monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé les principes du monde, mais il a aimé les créatures qui sont dans le monde, on est d'accord. Si le monde a de la haine, verset 18, pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous n'avez pas cette mentalité, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Comment tenir le coup dans le monde si nous ne nous aimons pas les uns les autres dans cet amour sacrificiel dans l'Église? C'est pas possible. Comment pouvons-nous être des exemples dans ce monde si nous ne pouvons et nous ne voulons pas nous aimer les uns les autres à l'exemple de Christ qui s'est donné à la croix pour nous? C'est pas possible. Comment pouvons-nous prétendre que nous sommes disciples de Christ si nous ne sommes pas disciplinés dans ce commandement justement qui nous demande de nous aimer les uns les autres? Balouni, ça ne sert à rien, c'est du cirque, c'est de la religiosité, c'est une façade, ça ne tient pas. Et l'épreuve du monde ne permettra pas que tu tiennes le coup. Parce qu'il y a cette authenticité dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de comédie qui a donné le terme hypocrite, hypocrite. celui qui joue un rôle. Comme malheureusement les religieux qui jouaient un rôle pour se donner bonne figure. Jésus les a traités de tombeaux blanchis, remplis d'ossements, c'est épouvantable. Donc il y a cet appel encore sur le cœur de Dieu. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as comme message encore ce matin pour ton Église, pour moi, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous sommes là tous ensemble pour écouter ta parole. Et ce texte était là devant moi. Je me dis, Seigneur, mais on le connaît, Seigneur. Qu'est-ce que je peux encore dire sur ce texte? Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Ouvre-moi l'intelligence par ton esprit pour vraiment comprendre ce que tu vas encore me dire, parce que j'ai besoin de cette révélation par la puissance de l'Éternel, la puissance de l'Esprit qui rend vivante cette parole. Alléluia. Et je pense que si le Seigneur m'a donné ce message pour nous, je ne dis pas pour vous, pour nous ce matin, c'est parce que le Seigneur veut nous urger, veut nous obliger, veut nous donner cette grâce de pouvoir encore entendre cela aujourd'hui. De ce commandement qui brûle encore sur le cœur de Dieu, qui doit brûler sur ton cœur, de ce qui fait partie du programme de vie avec lui. Voici mon commandement qui doit venir votre commandement dans l'Église. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé à l'exemple de ma vie qui a été donnée. Ce qui m'a touché, bien aimé, dans ce verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ce terme de donner, nous trouvons quelques chapitres avant, dans Jean 10, ce chapitre du bon berger. Et si on lit à partir du verset 9 de Jean 10, où Jésus dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Par Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Il entrera, il sortira et trouvera de la pâture, il trouvera de la nourriture, il trouvera quelque chose de magnifique, il trouvera vraiment quelque chose d'indescriptible. De la pâture pour les brebis, c'est le rêve. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient même en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne. On retrouve ce même terme. Donne. Il donne sa vie pour ses brebis. Il se sacrifie pour ses brebis. Il ne s'engraisse pas de ses brebis. Ça, c'est les mauvais bergers qu'on trouve dans Ézéchiel. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le salarié qui n'est pas le berger à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne de nouveau ma vie pour mes brebis. Dans tous ces versets où vous trouvez le terme de donner sa vie, il y a dans le langage, dans le terme, la racine des premières lettres de Dieu, parce que Dieu se donne. Dieu ne volera jamais. Dieu ne va jamais te tromper. Dieu ne va jamais faire miroiter comme le voleur quelque chose. Dieu ne va jamais travailler pour son intérêt. Dieu n'a pas d'agenda caché. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le voleur. Le seul agenda que Dieu portait dans sa vie, le but ultime que Jésus avait, c'était de mourir pour toi à la croix, c'était de donner sa vie pour toi, afin que tu l'aies en abondance. Et j'ai tellement apprécié ce matin ce chant où j'ai comme vu cette image de ce ciel qui s'est arrêté et les anges ont contemplé pendant un moment ce qui se passait sur la terre. Ils devaient se regarder, ils devaient se dire « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? On ne comprend pas, on ne peut pas plonger les regards dans le salut que Dieu a donné à l'humanité. On ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que Jésus va faire ?» C'était la grande interrogation dans le ciel. Il y avait ce rendez-vous avec les ténèbres, et ces ténèbres devaient voir cette œuvre de l'épreuve qui était mise sur le Fils qui allait être crucifié à cause des péchés de l'humanité, à cause de la furie du diable. Et les anges ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait en bas. Et à l'heure de la croix, alors que Jésus préfère boire cette coupe jusqu'à la dernière goutte, après avoir été dans Gethsémané, pour dire au Père, au Père, là on n'est pas dans une pièce de cinéma, les amis, on n'est pas dans un truc qui se joue là. Nous sommes dans ce cœur percé de Jésus qui dit, mais Père, si tu veux faire passer loin de moi cette heure, Jésus a préféré avoir le cœur déchiré pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ils se périssent pas à coûter la vie à Jésus, percé de toutes parts, abandonné. Si tu doutes de l'amour de Dieu, j'ai déjà dit si, mais combien je veux le dire, je le dirai encore. Dieu t'a préféré à l'heure de la croix, à son Fils bien-aimé. Trinité déchirée par le péché de l'humanité, mais quel Dieu on a, mais c'est extraordinaire. Cette Trinité éternelle, cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, créateur des cieux et de la terre, de tout ce que vous voyez qui est parfait, qui est extraordinaire, parce qu'on sait que la nature révèle les perfections de ce Dieu invisible. Et il a fallu juste une désobéissance pour briser cela. Et Dieu, depuis Adam et Ève, depuis Noé, a voulu racheter ce monde, s'est donné pour ce monde. Jusqu'à l'heure de la croix où Christ est là, dans Gethsémané. Il sait qu'il va être hué de coups, il sait qu'il va être déchiré. Le Père sait que son Fils va être déchiré. Vous, parents, mais vous rendez compte, moi qui ai un Fils, et Dieu sait si j'aime mon Fils, à cause de personnes coupables, mais je ne pourrais pas donner mon Fils pour des coupables. Mais pourquoi me séparer de mon Fils? C'est ça, Noël. C'est l'amour du Père déchiré qui donne son Fils en rançon à cause de la noirceur de mon péché, à cause de ma culpabilité. Car Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour payer cette énorme dette. Ma dette a dû être épouvantablement grande pour que le Fils de Dieu vienne sur terre, quitte la gloire du Père pour mériter le jugement des hommes. Parce que tout ce que les hommes ont réussi à faire au Fils de Dieu, c'est lui offrir une couronne et la croix. Ce plan, bien-aimé, est incompréhensible et tellement révélateur de l'amour de Dieu. Ce matin, ne passe pas à côté de l'amour de Dieu. Ne passe pas à côté de ce commandement que Jésus nous a donné et répété et répétera jusqu'à la fin. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je ne sais pas comment continuer. Observez à la suite de cela, au chapitre 16, Jésus leur dit, et je vous rappelle que nous sommes à l'aube de la crucifixion du Fils de Dieu, et nous avons un héritage, comme Jésus qui lègue une lettre écrite, qui sera bientôt écrite de son sang à la croix, comme quelque chose d'indélébile, parce qu'on ne peut pas effacer le sang de Christ. Au chapitre 16, je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés, ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir pensant rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi de ce qu'on vient d'entendre pour que l'heure venue, vous vous souveniez au moins ce que je vous ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Et ensuite, il y a tout le service du Saint-Esprit qui vient nous assister. Combien on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ne nous privons pas du don du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin de la vie de Christ. Nous avons besoin de ce don, mais c'est au prix de ce qui précède que nous allons être baptisés dans l'Esprit, que nous allons être remplis de la vie de l'Esprit pour continuer cette œuvre. Alléluia. Et avant, c'est extraordinaire parce qu'on parle aussi de l'Esprit, chapitre 14, à partir de verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. On y est dans quelque chose que Dieu veut que tu t'impliques. C'est quelque chose qui te donne d'être engagé. Si vous m'aimez, amour agapé, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Amen. Au prix de ce commandement de vous aimer les uns les autres. C'est comme cela qu'on reçoit la visitation de l'Esprit. Il me semble que je découvre ces textes avec vous ce matin. Promesse de l'Esprit. Ministère de l'Esprit. Et avant, là entre, dans le chapitre 15, aimez-vous les uns les autres, voici mon commandement. Et c'est tout cela que ça se passe, c'est là que ça se passe. C'est le cœur de Dieu là au milieu. Entre la promesse de l'Esprit, cette grâce de pouvoir nous aimer les uns, parce que c'est une grâce, de nous aimer les uns les autres, et ensuite de voir comment le ministère du Saint-Esprit va agir, alors que nous serons mis à part par le monde, que nous serons exclus par le monde, que le monde ne va pas nous aimer, mais tant mieux si le monde ne vous aime pas. Tant mieux, parce que vous n'êtes pas de ce monde, bien-aimé. Ne cherchez pas à aimer et à être aimé par le monde, c'est pas possible. Mais au moins que l'Église vous aime. Parce ce qui se passe des fois dans l'église, c'est pas beau. Je le dis pas ici. Si nous ne sommes pas animés de cet amour les uns les autres, de cet amour sacrificiel, de cet amour qui se donne, ça va être difficile. Je relis et je termine par là. Jean 15, 12, 17. Avec tout ce qu'on a pu mettre autour. Étudier la parole de Dieu dans son contexte. Si tu ne comprends pas un texte, regarde ce qu'il y a avant, regarde ce qu'il y a après. Demande au Saint-Esprit de te révéler et que le Saint-Esprit rende ces choses vivantes pour toi. Amen. Parce que la parole de Dieu demande révélation pour être vraiment intégrée. Demande la révélation du cœur de Dieu. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur ou servante parce que le serviteur ou la servante ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Tout. Et c'est là que le verset 16 prend toute son ampleur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Il y a cette dimension de don par le Seigneur. Ce don du Seigneur dans cet établissement, afin que vous alliez en avant, que vous portiez du fruit, amen, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, dans cet amour, dans ce commandement Dieu va accorder, il vous le donne. Le terme veut dire, il vous le cède avec de la souffrance. Et c'est ce que nous avons lu en Jean 10. Chaque fois que vous voyez que le bon berger donne sa vie, c'est le même terme, avec consécration, comme céder sa vie, plier sous la bonté du Père. Cet amour sacrificiel. Et on revient comme au verset 12, verset 17, qui enveloppe le tout, ce que je vous commande, ce que je vous exhorte à entrer dans, si vous voulez, dans ce programme. Il n'y a pas d'autre programme, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen.